Bonjour à vous tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous. J'ai des beaux souvenirs de cette église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé une année dans cette église en tant que stagiaire de l'IBB en 2015-2016. Donc ça fait 9 ans déjà. C'est incroyable, le temps file. Et là, on est à l'église de Walloway depuis 5 ans. Mais on est sur le point de retourner en Suisse, vivre auprès des parents de Fiona. Mais c'est avec tristesse qu'on vous quitte, parce qu'on a beaucoup de beaux souvenirs, beaucoup de bons amis ici. Mais j'ai l'honneur d'être là ce matin pour vous présenter un message tiré de l'Épître aux Colossiens. Donc si vous avez vos Bibles ouvertes à Colossiens 3, et on va aussi faire référence à plusieurs versets dans cette Épître. Donc merci de suivre avec moi dans vos Bibles. Comme vous le savez, je suis directeur du ministère de musique écriture. Donc, on va parler un peu de la musique ce matin, mais pas que. Donc, vous allez voir la pertinence de la musique, mais on va aussi et surtout parler de la centralité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, merci de prier avec moi pour l'aide du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui nous illumine, qui nous éclaire et qui nous parle de ton Fils, et que notre esprit soit émerveillé, illuminé, alors que nous contemplions Jésus-Christ ce matin, que tu puisses, par ton esprit, nous aider à mieux te connaître. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Comme vous entendez très bien, je ne suis pas belge, je viens de l'Angleterre, mais j'ai maintenant passé presque 8 ans de ma vie en Belgique et je commence à m'habituer à la culture belge. Habiter en Belgique, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il faut noyer vos frites avec du mayonnaise, qu'il faut boire chaque marque de bière dans le bon verre, qu'il faut être fier avant tout de Tintin et d'une petite statue d'un petit garçon qui fait pipi, ou qu'il faut accepter de ne pas voir le soleil entre novembre et avril. Non, bon, ce sont des clichés. Habiter ici, c'est certainement développer une certaine affinité, une certaine familiarité, voir un attachement pour ce pays, sa culture, ses habitants, comme c'est le cas pour nous. Nous apprécions vivre ici, nous apprécions cette culture. Et si je reformulais la question, est-ce que la Belgique habite en vous, ou mieux, demeure en vous? Vous comprenez là que je parle de quelque chose d'encore plus profond. Ça évoque un attachement très fort qui ne vient qu'après avoir vécu ici depuis très longtemps. Ça évoque une mentalité, une manière de vivre qui est devenue innée. Vous et la Belgique, vous appartenez l'un à l'autre. Et si vous n'êtes pas originaire de la Belgique, vous avez peut-être ce sentiment d'attachement par rapport à votre pays d'origine. Et en quittant cet endroit, vous avez l'impression d'avoir laissé une partie de votre cœur là-bas. En tant que chrétien, où demeurez-vous spirituellement? Paul s'intéresse à ce thème dans la lettre aux Colossiens. Dans l'une des exhortations principales, c'est dans chapitre 2, verset 6, il dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions que vous ont été données. » Autrement dit, notre demeure est Jésus-Christ. Et l'enseignement que nous avons reçu à propos de lui. C'est là où nous devons creuser et construire les fondations de notre vie. Mais dans notre verset phare aujourd'hui, Colossiens 3, 16, je vous invite à lire le début de ce verset, Paul renverse l'image, donc on lit Colossiens 3, 16, que la parole de Christ demeure en vous. Que la parole de Christ demeure en vous. Dire « j'habite en Belgique » a déjà un certain poids, mais dire « la Belgique habite en moi » évoque quelque chose de plus profond. Et donc dire « je construis ma vie sur Jésus » a déjà un certain poids, mais dire « la parole de Christ demeure en moi » évoque quelque chose de plus profond. Ce verset, comme nous allons voir, est bien connu pour son enseignement concernant la musique. C'est pour ça, en partie pour ça que je l'ai choisi. Et on va en parler, bien entendu. Mais ce n'est pas en premier lieu les remarques musicales qui devraient saisir, capter notre attention ici. Le verbe « demeure » au début du verset est un impératif. C'est le verbe principal. Les autres verbes dans le verset sont des participes. Vous excusez un peu de grammaire là. Mais ça veut dire que « demeurer », c'est le verbe principal. Que la parole de Christ demeure est donc le but principal de ce verset. Cela nous amène déjà à nous poser la question, est-ce que la parole de Christ demeure en nous? Est-ce que sa parole est seulement un lieu de séjour temporaire? Ou est-ce que nous y demeurons? Est-ce que la parole demeure en nous? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Ce serait facile de lire cette expression sans trop y réfléchir. Parole, Christ, c'est du jargon chrétien. Mais vous serez peut-être surpris de découvrir que l'expression « parole de Christ » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Parole de Dieu, oui, mais parole de Christ seulement ici. Certains ont donc proposé qu'il s'agit des paroles prononcées par Christ, notamment dans les évangiles. Ça aurait du sens, mais je ne pense pas que le contexte colossien va dans ce sens. On découvre que c'est plutôt la parole à propos de Christ qui est au centre de cette lettre. Et si on connaît un peu Colossien, cela ne devrait pas nous surprendre. Olivier a déjà lu quelques extraits de cette lettre et nous a déjà invités à contempler Christ, sa centralité, et il a raison. C'est là le but central de toute la lettre aux Colossiens. D'abord, dans cette lettre, Paul y martèle l'importance de la parole, du message. Voici quelques exemples. Dans le chapitre 1, les Colossiens ont été convertis quand ils avaient entendu la parole de la vérité, la parole de l'Évangile. Dans 1:25, Paul dit qu'il est prêt à souffrir afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et vers la fin de la lettre, il leur demande « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Il nous laisse sans aucun doute de l'importance de la parole. Mais pas n'importe quelle parole, la parole à propos de Christ. Voici par exemple 1:27. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. Et 2:2, le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous risquons peut-être de prendre pour acquis la centralité du message de Christ. C'est un peu la réponse de l'école du dimanche. On pose la question, qui a tué Goliath? Jésus, Jésus! Mais bon, le risque pour nous adultes, c'est que nous nous lassons un peu d'entendre la même chose. Mais Paul, ne permet pas d'en avoir marre. Il insiste que nous ne ratons pas la signification explosive de la centralité de Jésus. Vous avez entendu les expressions « Christ, la glorieuse richesse »,« Christ, l'espérance de la gloire »,« Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». Et on n'oublie pas ce magnifique passage que Olivier a cité tout à l'heure, cet hymne à la gloire de Jésus, le Fils divin, pleinement Dieu, pleinement homme, le Créateur en qui tout subsiste, celui qui a vaincu la mort, celui qui s'est donné sur la croix afin de nous racheter, afin de nous réconcilier avec Dieu. Ce Christ suprême, ce Christ suffisant. C'est la parole à propos de ce Christ-là que Paul évoque dans 3:16. On pourrait dire que c'est l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire alors de laisser cette parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse? Ben, si Christ est suprême, si Christ est suffisant, il n'y a qu'une seule chose à faire, simplement mieux connaître Christ, comme Olivier a déjà très bien dit. Nous, comme les Colossiens, sommes tentés de croire que Jésus est très bien comme porte d'entrée pour la vie chrétienne, mais après ça, il faut autre chose pour être vraiment épanoui en tant que chrétien. Nous cherchons peut-être cette solution miracle, la clé de voûte qui nous manque, peut-être des expériences mystiques de l'esprit, ou plus de règles personnelles, ou peut-être la dernière tendance chrétienne. Mais Paul, il veut nous convaincre non seulement que Christ suffit, mais que nous avons déjà tout pleinement en lui dès le début. Donc grandir en tant que chrétien, ce n'est pas chercher autre chose, mais c'est simplement comprendre et apprécier toujours plus ce que nous avons déjà depuis le début. C'est pourquoi Paul dit dans chapitre 1, verset 28, qu'il veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait ou mûr en Christ. Et 2:6 que nous avons déjà cité, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » Et un peu plus tard, il nous demande, 3:1, « Attachez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, il nous laisse sans aucun doute de l'importance de continuer à chercher Christ, à mieux le connaître, être mûr en Christ, à marcher en Christ, être enraciné en Christ, être fondé en Christ, être attaché aux choses d'en haut où est Christ. Vous voyez, je pense que ça, c'est le sens de l'expression que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et si Jésus est devenu une banalité ou un acquis pour nous, comme je pense que nous tous, nous courons ce danger, Paul veut que nous soyons éblouis de nouveau par sa suprématie, par sa suffisance. Le but de la vie chrétienne, c'est simplement de mieux connaître la parole de Christ, la même parole, le même Christ que nous avons reçu tout au début. C'est retourner à ce message, à ce Christ, chaque jour, afin de sonder toujours plus ses richesses. C'est nous rappeler constamment notre petitesse et notre besoin de ce chef suprême. C'est confesser constamment notre péché et notre besoin de ce sauveur qui offre ce salut définitif. C'est nous émerveiller constamment que nous avons une nouvelle identité sainte en lui, que nos âmes sont cachées avec lui dans les lieux célestes. C'est puiser constamment en lui pour avoir les forces et la grâce et l'inspiration pour suivre son exemple chaque jour. C'est chercher à être comblé par sa beauté, par sa gloire, et aussi de laisser briller sa gloire, sa beauté, sa lumière, pour que les autres puissent le connaître aussi. Enfin, c'est laisser cette parole de Christ nous imprégner, diriger notre vision, nos cœurs, nos vies entières. Évidemment, c'est le projet de toute la vie. Ça ne va pas tout d'un coup, demain, devenir notre optique. C'est un projet qui va prendre la durée de toutes nos vies. Mais que faire concrètement pour laisser cette parole demeurer en nous? Vous vous dites peut-être, ouais, j'en ai envie, mais comment le faire en pratique? Et nous pourrions évoquer plusieurs pistes bibliques et utiles. Bon, par exemple, consacrer du temps chaque jour pour lire la Bible et prier, fréquenter une église comme celle-ci où le message de Christ est prêché fidèlement, où on peut s'encourager mutuellement dans notre foi, chercher à refléter Christ en chaque domaine de la vie. Tout cela est incontournable, bien entendu. Mais dans notre verset 3:16, Paul nous donne une piste spécifique, le chant communautaire. J'ai toujours trouvé cela un peu surprenant. On n'accorde pas énormément de place au chant ailleurs dans le Nouveau Testament. Seulement 6 versets dans le Nouveau Testament mentionnent des occasions où les chrétiens chantent ensemble. Et vu l'importance de l'exhortation que la parole de Christ demeure en vous, pourquoi Paul n'a-t-il pas proposé, par exemple, d'aller écouter une bonne prédication, par exemple? Moi, j'aurais dit cela, même en tant que musicien, je m'attends à ce que Paul dise « Allez écouter la bonne prédication ». Et ce serait une bonne chose à faire. Mais non, il choisit de souligner le chant comme moyen d'accomplir le but principal de toute la lettre. Et donc, le chant n'est pas sans importance. Et généralement, quand les chrétiens parlent du chant, c'est presque pris pour acquis qu'on prend comme point de départ le sujet de la louange. La louange ou l'adoration ou worship en anglais est même devenu synonyme du chant. Et vous cherchez des chants chrétiens sur Spotify, vous cherchez sous la rubrique louange. Les livres sur le sujet de la musique ont presque toujours le mot louange ou adoration dans le titre. Et nous verrons que la louange est étroitement associée au chant, bien entendu, mais elle n'est pas le point de départ dans ce verset. Le point de départ dans ce verset, c'est la parole de Christ. Le but principal du chant, selon ce texte, est de faire habiter la parole de Christ en nous dans toute sa richesse. Quel honneur est accordé au chant! C'est donc avec raison que le chant fait partie intégrale de nos réunions depuis 2000 ans, que nous avons chanté plein de chants ce matin. On remarque parfois qu'il y a beaucoup moins de chants communautaires dans d'autres religions, par exemple. Chanter est vraiment l'une des marques les plus distinctives et visibles des réunions chrétiennes. Après tout, si les chrétiens chantent, c'est parce que nos réunions sont des célébrations. Nous avons une raison pour chanter, pour célébrer le message du salut en Christ. Mais ce verset nous aide à aller encore plus loin dans notre compréhension de la place du chant dans l'Église. Comme nous avons déjà vu, demeurer est le verbe principal et les verbes qui suivent sont des participes, donc subordonnés au verbe principal. Donc on a les verbes instruisant et exhortant ou avertissant selon la traduction et ensuite chantant. Donc instruisant et chantant sont donc des moyens de faire habiter la parole en nous. Il y a une petite difficulté de traduction ici que je dois traiter brièvement parce que ça dépend quelle version vous avez devant les yeux. Certaines versions, par exemple le français courant, divisent le verset ainsi. On a instruisant et avertissant, tout seul, et ensuite chantant à Dieu par des psaumes, hymnes, cantiques. Au premier regard, c'est logique, chanter des psaumes, c'est logique. Et si c'est la bonne traduction, ça veut dire que le chant ne se trouve que dans la dernière partie. Donc on a deux activités distinctes, l'instruction et le chant, qui ensemble aident à faire demeurer la parole en nous. Et dans un sens, ça paraît logique. Mais la plupart des versions préfèrent une autre traduction, par exemple le Second 21 ou la Nouvelle Bible Second, et pour de très bonnes raisons aussi, que je n'expliquerai pas maintenant, je pense que c'est la bonne traduction. Donc on a instruisant et avertissant par des psaumes hymnes et cantiques, et ensuite chantant à Dieu. Vous voyez la différence? Donc maintenant l'activité de chanter se trouve deux fois dans le verset. On a l'instruction par le moyen des chants et l'adoration par le moyen des chants. Donc une activité chantée avec deux buts, l'instruction et l'adoration. Et donc ça veut dire que la parole de Christ demeure en nous par le chant, quand le chant vise non pas un but, mais deux buts, l'instruction et l'adoration. Désolé, c'est la partie peu technique, j'espère que vous m'avez suivi. La première chose, que le chant vise l'instruction, est peut-être un peu plus surprenant. Nous avons tendance à négliger cet aspect dans certaines églises en tout cas, mais ça nous montre que le chant n'a non seulement une dimension verticale, mais aussi une dimension horizontal. On peut très bien chanter et louer Dieu tout seul dans sa chambre, mais si on chante à l'église, c'est précisément parce que la dimension communautaire est très très importante. On vient à l'église justement parce que nous avons besoin les uns des autres pour être instruits et avertis. Et dans un sens, cela se fait bien sûr lorsque nous écoutons une bonne prédication. Je suis en train de vous instruire. Mais vous le faites aussi après par vos échanges ou par vos prières lors du moment de prière que nous avons. Chacun participe dans un sens, dans l'instruction mutuelle les uns des autres. Et donc, nous faisons cela aussi lorsque nous chantons les uns aux autres. Nous ne sommes pas simplement en train de louer Dieu, nous sommes aussi en train de s'instruire les uns les autres. Et donc, tout comme une bonne prédication, les chants devraient nous enseigner des vérités bibliques et les appliquer à nos vies, comme les chants que nous avons chantés ce matin. Et donc, chacun entre nous devient un petit prédicateur qui enseigne et exhorte l'Église en quelque sorte. Et quand nos chants accomplissent cela, ils aident la parole de Christ à demeurer en nous dans toute sa richesse. Sans minimiser la place centrale de la prédication, bien entendu, ce n'est pas pour rien que Paul choisit le chant ici comme moyen d'instruction. La musique est puissante, elle a un impact profond sur notre intelligence, sur nos émotions, sur nos vies. Nous sommes entourés par la musique. En faisant du sport le matin, vous écoutez une playlist Spotify pour vous motiver. Au travail, vous mettez un peu de musique de fond pour vous aider à vous concentrer. Le soir, votre série Netflix est accompagnée d'une musique orchestrale. Oui, la musique est partout. Elle est puissante. Et s'il y a des paroles, c'est encore plus puissant. J'ai récemment entendu un prédicateur qui parlait d'une chanson, ça date, hein, des années 60, un chanteur américain, Engelbert Humperdinck, et cette chanson a passé 56 semaines en haut des classements pop. Et les paroles de cette chanson évoquent un homme qui n'aime plus sa femme et qui croit que ce serait même un péché de rester avec elle. Donc imaginez tous les maris insatisfaits qui écoutaient cette chanson à la radio pendant 56 semaines. Impossible de croire que beaucoup de mariages n'étaient pas brisés en conséquence. Et il faut dire qu'un chant chrétien peut aussi promouvoir un message erroné. Il y a seulement une année, un groupe de louanges américains, dont les chansons souvent traduites en français, a ressorti un titre qui a déjà ramassé des millions de vues sur YouTube. Le refrain dit « Miracle après miracle, ça vient, alors prépare-toi ». Parce qu'un autre miracle est en route. Allez, je ne veux pas commenter la place des miracles dans la vie chrétienne, mais il me semble que ce chant prône une attente du miracle trop élevée qui n'est pas en accord avec l'équilibre de l'enseignement biblique là-dessus et qui risque de nous induire dans une fausse attente de miracle. Impossible de croire que des millions de chrétiens qui écoutent cette chanson depuis une année ne sont pas influencés par un message déséquilibré. Si vous voulez bien, la musique est comme un cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. Les murs de nos cœurs sont souvent impénétrables. Même une bonne prédication, soyons honnêtes, a parfois du mal à percer les défenses. Mais la musique travaille nos émotions et adoucit nos cœurs. Elle nous rend plus disposés à laisser entrer la parole et la laisser demeurer dans nos cœurs. La question n'est pas de savoir si nous laissons passer le cheval de Troie, parce que nous laissons tous passer ce cheval. Mais qu'est-ce qu'il contient ? Une fois à l'intérieur de vos défenses, est-ce que les armées du mensonge sortent pour s'emparer de votre cœur? Et si ce cheval emmenait toute la richesse de la vérité biblique derrière nos défenses, des belles vérités glorieuses, semaine après semaine, jusqu'à ce que la parole de Christ prenne sa demeure dans nos cœurs? Imaginez l'impact sur notre théologie, sur nos émotions, sur notre vécu, sur nos églises. Voilà pourquoi Paul insiste que nous nous instruisons et avertissons les uns les autres par le moyen du chant. Le deuxième aspect du chant dans ce verset est moins surprenant, mais tout aussi important. Nous avons vu que le chant vise l'instruction, mais le chant vise bien sûr aussi l'adoration, la louange. C'est la dimension verticale du chant. Mais ne supposons pas trop vite que nous avons compris cette partie. Si la musique chrétienne contemporaine a bien raison de souligner l'importance de la louange, parfois cette louange est un peu déplacée. Il s'agit souvent d'une louange dans un vide, comme s'il suffit simplement de chanter « Je te loue Seigneur, je te loue ». Le danger, c'est que le chant finit ironiquement par être centré sur ce que moi je fais. Mais ce verset voit la louange comme un moyen de faire habiter la parole de Christ en nous, dont la louange ne devrait pas être dissociée de la vérité biblique. Nous louons Dieu non pas dans un vide, mais en réponse à ce qu'il a révélé dans sa parole, surtout à propos de Christ. Je crois que c'est cela la signification de l'expression « sous l'inspiration de la grâce », ou dans certaines versions avec action de grâce, c'est lorsque nous nous focalisons sur la parole de Christ que nous sommes portés instinctivement à louer Dieu avec reconnaissance dans notre cœur pour sa grâce envers nous en Christ. Et ainsi, le focus est placé non pas sur notre louange, mais sur celui qui en est digne. Et ainsi, nous permettons à la parole d'avoir son plein impact sur nos cœurs. En résumé, le but principal du chant, c'est permettre à la parole de Christ de demeurer en nous dans toute sa richesse. Cela se fait par deux buts parallèles. La parole demeure en nous dans toute sa richesse lorsque nos chants nous permettent de nous instruire les uns les autres. Et la parole demeure en nous dans toute sa richesse lorsque les chants nous permettent de louer Dieu ensemble pour sa grâce envers nous en Christ. Nous avons peut-être tendance à penser que le culte comprend plusieurs activités qui ont chacun un but distinct. Je ne parle pas forcément de cette église, mais je remarque cela parfois dans des églises, qu'on sépare un peu trop le temps de louange, c'est-à-dire les chants, et puis le temps d'enseignement, c'est-à-dire la prédication. En réalité, chaque activité devrait viser les mêmes buts. Les chants ne visent non seulement la louange, mais aussi l'instruction. Et je crois qu'on pourrait dire aussi que la prédication n'est pas seulement un temps d'enseignement, mais aussi un moment où on veut inspirer l'adoration dans vos cœurs. Donc j'espère que lorsque vous écoutez une prédication, vous êtes aussi en train de louer Dieu. Donc, ainsi, on évite une vision trop simpliste et trop compartimentée du culte. Tout ce que l'on fait vise l'instruction et la louange. Il faut dire aussi qu'on évite ainsi de réduire la louange au chant uniquement, car la louange ou l'adoration n'est pas uniquement une activité du dimanche, mais devrait caractériser toutes nos vies, tous les aspects de nos vies. J'aimerais terminer en proposant quelques pistes concrètes qui vous permettraient de bénéficier au maximum des chants, même si vous faites déjà ces choses dans votre assemblée, c'est toujours utile de s'en rappeler. D'abord, c'est important de réfléchir soigneusement au choix des chants. Je vois que Olivier a réfléchi soigneusement au choix des chants ce matin, c'est super de voir cela. Est-ce que les paroles que nous chantons sont au minimum vraies? Est-ce que les chants dans leur ensemble communiquent toute la richesse de la parole, surtout la centralité de Christ? Est-ce que les chants visent à nous enseigner, à nous exhorter et bien sûr à inspirer une vraie adoration de Dieu? Quant aux musiciens, on a Pierre ce matin, mais si jamais vous avez d'autres musiciens, comme vous le savez, vous n'êtes pas là pour faire un spectacle. Je ne pense pas que c'est une tentation pour Pierre, qui est un très bon modèle. Votre rôle est d'abord de mettre en valeur les paroles que nous chantons par un accompagnement musical qui reflète le sens et les émotions des paroles. Et vous êtes aussi là pour guider et faciliter la participation de l'Assemblée. Si jamais vous avez des chanteurs ou chanteuses devant, par exemple, leur rôle, c'est de guider, faciliter l'Assemblée. Mais plus important encore, nous sommes tous impliqués dans la musique. Vous, l'Assemblée, vous êtes l'instrument principal. Et est-ce que vous participez de la bonne manière? Dans certaines églises, le but des chants est de convoquer en quelque sorte la présence de Dieu. Mais il ne faut pas faire abstraction de l'œuvre accomplie de Christ qui a donné sa vie afin que le Saint-Esprit demeure en nous en permanence. Et donc à l'Église, nous ne devons pas persuader Dieu de redescendre sur nous, mais nous célébrons le fait qu'il est déjà avec nous en permanence. Oui, bien sûr, nous voulons vivre l'intimité avec Dieu lorsque nous chantons Amen, mais cela ne vient pas en convoquant sa présence, mais en nous rappelant les vérités magnifiques de sa parole. Donc, quand vous chantez, essayez donc de vous pencher sur les paroles et ne vous laissez pas emporter simplement par la musique. Pourvu que les paroles sont bibliques, ça peut vraiment être une expérience profonde et enrichissante de Dieu, où votre foi est boostée et votre adoration exprimée sincèrement. On risque aussi de faire des chants un moment purement personnel. Ça peut être très puissant sur le plan personnel, mais n'oublions pas la dimension communautaire aussi. Même si vous n'avez pas une très belle voix, comme moi, chantez avec enthousiasme pour encourager les autres autour de vous. Et quand vous regardez à droite ou à gauche, de temps en temps, vous voyez des frères et sœurs proclamer avec conviction des vérités bibliques. Et c'est un témoignage puissant pour notre âme de voir cela. La dimension communautaire implique aussi que nous devons être prêts de temps en temps à mettre de côté nos préférences musicales, personnelles, par amour pour les autres. Je me souviens d'une vieille dame dans une église que je fréquentais par le passé. Elle avait presque perdu la vue et elle ne retenait honnêtement plus grand-chose de la prédication. Mais qu'est-ce qu'elle aimait chanter? Elle connaissait les paroles de beaucoup de cantiques par cœur. Elle chantait toujours avec joie et enthousiasme. Elle nous encourageait par sa manière de chanter. Elle illustrait bien le sens de « instruisez-vous les uns les autres ». Et lorsqu'on met tout cela ensemble, c'est quand même beau, n'est-ce pas? Des gens de différentes cultures, d'âges différents, mais unis, comme c'est le cas ce matin, se rappelant les uns les autres du salut en Christ, adorant ensemble notre Dieu. Ainsi, la parole de Christ demeure en chacun de nous et aussi parmi nous dans toute sa richesse. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, un autre rassemblement à venir où nous chanterons tous ensemble autour du trône céleste, où nous nous rappellerons pour toujours le message de l'agneau immolé, où nous chanterons à jamais les louanges de Dieu. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour la parole de Christ qui est au centre de notre foi. Que le but de nos vies soit de toujours mieux connaître Christ, en qui nous avons toutes déjà pleinement. Nous sommes bénis en Christ, que nous soyons constamment émerveillés, satisfaits en lui. Et que les chants communautaires servent ce but, Seigneur, que nous puissions jouir, bénéficier de ce don de la musique qui nous aide à mieux connaître Christ, que nous puissions avoir de la joie à nous instruire les uns les autres chaque dimanche et bien sûr à t'adorer ensemble pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Et on prie ces choses pour la gloire de ton Fils, au nom de Jésus. Amen.